Popol, le podcast politique
qui donne la parole aux femmes. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être déjà aussi nombreux et nombreuses à 19h30 pétantes. C'est bien parce que le public de Popol est ponctuel et ça, c'est cool. C'est très émouvant de vous voir aussi nombreux, nombreuses pour ce lancement de Popol Média. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui suivent l'aventure depuis le départ. Popol, c'est à la base un podcast que j'ai lancé il y a tout pile 3 ans, qui était un podcast pour visibiliser en fait les femmes et les minorités de genre dans l'espace politique, pour parler de politique, parce que souvent on nous laisse entendre que bah, c'est pas trop notre truc, que c'est plutôt le truc des vieux mecs en costume gris. C'est faux. La politique, c'est aussi notre affaire et c'est important que ça le soit. Et c'est tout l'objectif en fait de Popol, c'est effectivement de redonner les clés de compréhension de la politique, parce que souvent, lorsqu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans les coulisses de la politique, on a tendance à nous la faire à l'envers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et considérant les responsables politiques, considérant qu'on est vraisemblablement ignorants et ignorantes sur ces questions, il est important de leur montrer qu'en fait, c'est faux. Popol, c'est un objet de vulgarisation de la politique, mais pas que. C'est aussi un objet qui permet d'avoir un nouveau regard sur la politique et un regard féministe, engagé, de gauche, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc voilà, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour une soirée spéciale, car Popol devient un média, donc ce podcast qui a été créé il y a 3 ans, a fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, pour aujourd'hui devenir un média, un vrai média, reconnu service de presse en ligne, youpi, c'est quand même quelque chose. Et donc pour ce faire, on organise cette soirée, qui est à la fois une soirée de lancement officiel de Popol Média, mais pas que. C'est aussi et surtout une soirée de soutien à Popol Média. Donc ça ne vous aura certainement pas échappé, on a mis des petits QR codes de partout. En fait, ce soir, l'objectif, c'est de faire en sorte de faire décoller la campagne de financement participatif qui est actuellement sur Kiss Kiss Bank Bank, je crois qu'on est aux alentours des 4 800 €, ce qui serait vraiment cool. Et j'ai fait des petits calculs. Normalement, il y a 200 personnes qui sont inscrites ce soir à l'événement. Donc si on arrive à être 200, puisque bon, au fur et à mesure de la soirée, il y aura forcément des gens qui vont nous rejoindre, je n'en doute pas. On est déjà plutôt nombreux et nombreuses. Il serait très cool que chacun et chacune d'entre vous participe. 5 balles, 10 balles, 20 balles, et aussi réussisse à convaincre quelqu'un de son entourage de participer. Parce que si on fait les bons calculs, si chacun et chacune d'entre vous qui êtes présents ce soir est présent, arrivez à convaincre une personne de votre entourage à filer genre 20 balles, on arrive à dépasser le premier palier de 20 000 € d'ici à dimanche soir. Donc voilà, c'est ambitieux, mais ce n'est pas impossible. Je reprendrai la parole après pour vous expliquer un peu plus le développement du média et pourquoi on vous demande de la thune, parce que c'est quand même important. Mais avant tout, on commence du coup la soirée avec un échange qui sera rediffusé en podcast, puisque c'est l'habitude de Popol d'organiser des événements où on enregistre en fait en public et en live les podcasts. Et donc ce soir, on a un sujet particulier dont on voulait parler avec vous, les relations entre la presse et les féminismes. C'est une chose qui nous intéresse toutes les cinq, et on va débattre de ça pendant 1 heure. À l'issue de ce débat, je reprendrai la parole pour vous briefer un peu sur le développement du média. Pas trop longtemps, vous inquiétez pas. Et ensuite, à 21h, on a Mao Drama qui intervient, qui va nous faire un spectacle, un stand-up, puisque c'est son métier. Et ce sera très drôle, je vous le garantis. À 21h30, on a Sonia Solshine qui va organiser un workshop de walking. Donc on va virer les chaises et on va danser. Et à 22h, on enchaîne sur un DJ set avec Mabiche. Voilà, c'est le programme de la soirée. Ça vous va ? Très bien. Super. Donc, on commence en douceur, avec un peu de réflexion, voilà. Avec mes 4 invités ce soir, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous Nora Amadi. Bonsoir Nora.
Salut. Alors, commencez pas à applaudir, si ça se trouve, ça va pas du tout coller, je vais dire que des bêtises.
Écoute, je sais que tu vas faire de ton mieux et ce sera déjà pas mal. Nora, est-ce que tu voudrais bien nous parler de toi, s'il te plaît ?
Alors, rapidement, je m'appelle Nora Amadi, je suis journaliste pour Arte France Culture. Je travaille sur la politique depuis près de 20 ans maintenant. J'ai été rubricarde et depuis 15 ans dans les affres des institutions européennes. Donc, je passe de la très, très macro au petit micro parce que, par ailleurs, j'ai une grosse activité associative et ce depuis 15 ans. Moi, je suis issue de quartier populaire. J'ai grandi en région parisienne, à 20 km de Paris, dans une petite ville au milieu de nulle part, en zone 5, avant que ce soit dézoné, à l'époque de la carte orange, pour les plus vieux d'entre nous. Je milite sur des questions d'égalité, des droits, d'égalité. J'aime pas l'égalité des chances, donc on va parler d'égalité des droits. Et dans ce cadre-là, en fait, je préside plusieurs associations qui ont à cœur de porter les récits des nôtres dans l'espace public. Au même titre, en fait, que les Gilets jaunes ont pris les ronds-points pour parler d'eux et porter leurs histoires et leurs trajectoires. Nous, on ouvre des espaces via l'éducation aux médias pour faire de l'éducation populaire et pour faire en sorte que chacun puisse porter ses propres récits. Donc, on y reviendra puisqu'il y a vraiment une convergence réelle entre les luttes féministes et les luttes des minorités et des gens racisés en quartier populaire.
Absolument. Merci beaucoup, Nora. Deuxième invitée de la soirée. Ariane Lavrieux. Bonsoir, Ariane.
Bonsoir.
Toi aussi, tu vas y passer. Petite séance. On démarre toujours. Parle-nous de toi, Ariane.
Bonsoir. Je suis journaliste indépendante, basée à Marseille. Et je suis reporter, aussi un peu journaliste d'investigation. Et là, je suis venue en ma qualité de co-secrétaire générale de Prenons la Une, qui est une des premières associations de femmes journalistes montées par des femmes journalistes pour les femmes journalistes, qui défend l'égalité dans les rédactions et un traitement des femmes et du genre plus professionnel, plus rigoureux, sans biais, sans stéréotypes, depuis 10 ans. Donc je suis une des fondatrices et aujourd'hui une des coordinatrices de cette association.
Et tu vas pas y échapper, tu as une petite actualité à partager avec nous peut-être.
Effectivement, ça me fait plaisir d'être ici parce que les derniers jours étaient un petit peu éprouvants. Je sors de 40 heures de garde à vue. Je n'ai rien fait de mal, je vous rassure. J'ai fait mon travail de journaliste pour le média d'investigation Disclose et j'ai été perquisitionnée, enfin mon domicile a été perquisitionné, j'ai été placée en garde à vue, auditionnée par la DGSI parce que j'ai travaillé sur les exportations d'armement de la France vers l'Égypte, qui est une des pires dictatures au monde, et les crimes de la dictature égyptienne et le soutien que la France apporte à ces crimes-là. Et ça me vaut d'être la cible, en fait, d'une enquête et d'une attaque, on peut dire, de la DGSI. Voilà, mais j'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais ça me fait plaisir d'être ici avec vous aussi.
L'objectif aussi de parler de ça, c'est pour visibiliser, en fait, ce travail que tu as réalisé, parce que une des réponses à ce type d'attaque que tu vis, c'est aussi de parler de ce travail que tu as fait, parce qu'en fait, on cherche à taire ce travail et à faire en sorte de l'invisibiliser. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ce travail ?
Alors, il est en accès libre sur YouTube. Ça s'appelle Les Mémos de la Terreur. C'est un documentaire. Et sinon, sur le site de Disclose, vous avez une suite de 5 articles qui racontent l'histoire de la compromission de l'État français avec la dictature égyptienne. Également, sur le site de France TV Info, on avait fait un documentaire le documentaire pour complément d'enquête qui vient d'être remis sur la plateforme. Donc, voilà, vous avez plein de moyens de le voir.
Et on vous invite à, bien entendu, le regarder, le partager le plus possible. Merci beaucoup, Ariane. Troisième invitée de ce soir, Faustine Kopiewski. Bonsoir, Faustine.
Bonsoir, Léa. Bonsoir, tout le monde.
tu nous parlerais de toi, s'il te plaît ?
Exercice détesté en tant que journaliste. Hein. Je préfère vraiment tendre le micro, mais je vais faire un effort. Je suis cofondatrice d'un média sur le web qui s'appelle Chic et qui est un média d'information féministe lancé en 2013 de manière indépendante et avec lequel on a rejoint les Inroc en 2016. Donc, il a été cofondé par trois femmes qui sont donc Myriam Levin, Julia Tissier et moi-même. On s'est rencontrées toutes les trois au sein de la rédaction d'un magazine féminin qui n'existe plus, qui s'appelait Bi à l'époque, B-E. Et en fait, on avait une forte envie d'en découdre. Mais voilà, on est des espèces de transfuges de presse féminine un petit peu radicalisée depuis le temps. voilà. Ça va, c'est bien comme...
Ça me semble très bien, oui. Merci beaucoup. Et enfin, quatrième invitée de ce soir, Lucie Barrette.
Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Lucie Barrette. Je ne suis pas journaliste comme mes camarades là, d'enregistrement de ce podcast et de lancement de Popol Media. Je suis enseignante-chercheuse en langue et littérature. J'enseigne pour une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEN INCREA Ouest à Caen. Et mes thématiques de recherche m'ont rapidement amenée à travailler sur l'histoire de la presse féminine. Parce que au départ, je dirais pendant mes études, j'ai pu constater aussi au début de ma carrière d'enseignante qu'il n'y avait pas d'autrice dans nos programmes. Et pourtant, je savais pertinemment, pour avoir consulté les catalogues de la BNF, qu'elle remplissait des pages et des pages. Donc, les femmes ont toujours écrit, voilà. Et donc, rapidement, je suis allée consulter les journaux, puisque j'avais suivi des cours sur la manière dont les écrivains du 19e se tournaient vers la presse au 19e, au moment vraiment du grand essor de la presse au 19e. Et un peu naïvement, je me suis dit qu'il en était exactement de même pour les autrices et pour les femmes, et que donc c'était sûrement là que je retrouverais leurs écrits, que je retrouverais leur réseau de sociabilité, etc. Or, j'ai rapidement constaté que il était très difficile pour les femmes d'accéder à la presse dite généraliste et que, en fait, l'endroit où elles se retrouvaient pour écrire et l'endroit où elles pouvaient se tester à de nombreuses postures d'écriture, critique d'art, évoquer les questions littéraires, etc. En fait, c'était la presse féminine. Donc, me voilà à découvrir cet énorme corpus, très peu étudié jusqu'à maintenant. Donc voilà, en gros, moi là, d'où je parle.
Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à toutes les quatre d'être là. Première question, on y va. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va y aller. La question que je voulais vous poser à toutes les quatre ce soir, c'est, d'après vous, quel est l'intérêt d'avoir une presse qui se dit féministe ?
À mon sens, c'est fondamental dans la mesure où aujourd'hui, on peut considérer que les luttes féministes, elles incluent pas seulement les femmes, mais les minorités de genre, en fait les marges. Je me demande moi très sincèrement s'il ne faut pas dégenrer la presse et en fait partir plutôt de la communauté d'expérience, c'est-à-dire ce qu'on partage collectivement, et pour le coup qu'on en fasse un récit collectif et une analyse collective. Et moi, ce que j'entrevois comme potentiel émancipateur incroyable dans le média, c'est ça, c'est l'expérience collective et de l'écriture et aussi de ce qu'on traverse et ce qu'on a besoin de médiatiser.
Faustine, un petit avis sur la question, j'imagine ?
Oui, je vais m'efforcer d'en avoir un. Ouais. je vais parler de mon expérience, c'est plus simple. Nous, en tout cas, quand on s'est lancé en 2013, déjà, on n'employait pas le terme féministe à l'époque, c'est-à-dire on l'employait pour nous. Nous, on était féministes, c'était clair, c'était assumé, etc. En revanche, notre média, on ne le présentait pas comme féministe. Ça a changé depuis. Dans notre baseline, maintenant, il y a le terme, évidemment, il est assumé. Mais donc, pour en revenir à l'époque, nous, c'était en fait la volonté de traiter d'une autre manière des sujets féminins, puisqu'on venait de la presse féminine. Et donc, On avait déjà une sensibilité assez inclusive, je pense, à l'époque, de par nos parcours respectifs. Donc, il y avait déjà cette notion, effectivement, d'inclusivité, de défendre, en fait, des choses qu'on n'arrivait pas à défendre dans un média mainstream. Donc, nous, on s'est vraiment lancé comme, voilà, comme un média, je pense, de niche. À la base, c'était vraiment volontaire. Et en fait, petit à petit, je pense que la démarche, enfin, on a été rattrapé par le fait de vouloir témoigner, documenter de toutes les révolutions féministes en cours ou de toutes les avancées, enfin voilà, on donne le nom qu'on veut, de tous les reculs aussi, malheureusement, bien sûr. En fait, l'actu qu'on a voulu créer à la base, elle nous a complètement rattrapés et on est devenu, je pense, plus un des témoins que des créatrices de cette actu au fur et à mesure. Donc moi, je dirais, en tout cas pour nous, une mission de témoignage, de relais. On s'est aussi lancé, nous, en voulant donner la parole beaucoup à des femmes dans tous les milieux qui nous semblaient invisibilisés dans la presse mainstream, notamment dans le milieu de la tech, dans le milieu politique, bien sûr, dans le milieu de la culture. Moi, je suis journaliste culture à la base, donc moi, c'était ma mission première. Voilà, en tendant le micro à ces femmes, on a accompagné leur lutte et voilà, on en a témoigné au fil des années.
Plus un rôle de...
De passeuse, en fait, au départ. C'était vraiment un rôle de passeuse. Et on allait exprès vers... Nous, on voulait absolument faire monter, entre guillemets, des femmes qui étaient inconnues, des femmes et aussi la jeunesse à l'époque. Alors ça, c'est encore un truc qu'on met vraiment en question aujourd'hui, parce que notre ligne éditoriale, à la base, était vraiment très axée sur des femmes jeunes, parce qu'on considérait à l'époque que c'était les personnes les plus invisibilisées du monde médiatique. Il y a évidemment débat sur la question, et aujourd'hui, on pense que le transgénérationnel a du bon et que l'agisme est un vrai problème, etc. Donc, on a aussi là... bifurqué, mais voilà, il y avait une volonté en fait de faire monter des nouvelles voix et de les accompagner. Et puis au fur et à mesure, ces voix ont pris tellement d'ampleur que aujourd'hui, c'est l'idée de les accompagner, de les relayer. Voilà.
Super, merci beaucoup. Et toi, Ariane, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut ou pas d'ailleurs, hein? On peut aussi ne pas être d'accord. Est-ce que finalement, avoir une presse féministe, ça n'a pas d'intérêt?
Eh ben effectivement, nous, je viens un peu de la même époque. Il y a 10 ans, Prenons la Une s'est créée et c'était pas vraiment l'objectif de Prenons la Une, même pas du tout d'accompagner une presse féministe. On était pour la plupart des journalistes qui travaillaient dans des médias mainstream, des grandes rédactions, moi j'étais à Europe 1, les créatrices Claire Allais et Léa Lejeune étaient dans des médias économiques, Alternatives économiques et Challenge. Il y en avait d'autres au JDD, 20 minutes, Alice Coffin. On avait Charlie Hebdo. Bref, on était toutes, quasiment toutes salariées. Il y avait très peu de pigistes de 20 à 50 ans, à BFM TV également. Et notre idée, c'était qu'il fallait absolument changer les médias de l'intérieur, que c'était devenu insoutenable pour les femmes journalistes de travailler, que il fallait vraiment monter au créneau et passer un cap pour que le journalisme se professionnalise et accepte les femmes à des postes de direction, à les traite sans écart de salaire, qu'il n'y ait plus de plafond de verre, et puis vraiment qu'on ait un traitement médiatique qui ne soit plus indécent, indigne sur la question des violences. À l'époque, on disait les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on dit les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'était ça vraiment au départ. Il y avait une idéologie un peu d'entrisme attachée avec l'idée que voilà, c'est de la déontologie qu'on veut porter au sein des médias. On veut améliorer les médias. Aujourd'hui, avec le recul aussi, après 10 années de militantisme, on se rend compte que ce combat-là est épuisant au sein des rédactions. Moi, j'ai quitté Europe 1, je suis devenue indépendante, et qu'on a besoin d'espace à nous aussi, d'espace beaucoup plus safe, d'espace où on a le pouvoir, en fait, tout simplement. Parce que juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, 80% des directeurs de rédaction, ce sont des hommes. 34% des rédacteurs sont des femmes seulement. On a encore 12% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes journalistes. Donc, on n'est toujours pas à égalité dans les médias et ça ne va pas. Et donc, on risque de s'épuiser aussi à vouloir pousser toute seule dans des médias mainstream, et il nous faut créer cet espace-là. Et aussi parce que les médias généralistes sont violentes en fait contre les femmes. On a récolté un certain nombre de témoignages lors de nos réunions, d'événements publics. J'en ai ramené là quelques-unes. Je sais pas si je peux les dire maintenant, mais par exemple, on a un JRI en reportage qui dit à une journaliste, ben dis donc, tu aimes les guilis ? Voilà. des petites choses anodines, qui ont l'air anodines, mais qui posent un contexte. Une autre journaliste qui est tout le temps prise pour la stagiaire de la rédaction. Puis le photographe qui part avec elle lui explique, mais tu sais, une photographe, c'est pas possible quand on est une femme, en fait, parce qu'elle doit s'occuper de sa famille. Voilà, des petites remarques. On a eu des témoignages beaucoup plus douloureux d'agressions sexuelles dans les médias. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, on a besoin de cet espace à nous, et aussi pour faire émerger, comme tu l'as dit, des sujets qui n'existent pas encore, des mots qui n'existent pas encore dans les médias généralistes, et en fait de repousser la ligne de front. Et le mot féminicide, il est apparu aussi parce que la presse féministe, les groupes féministes l'ont poussé, et aujourd'hui c'est un mot qui est utilisé par Le Monde, par l'AFP, mais à notre époque, il y a seulement 10 ans, nous, même à Prenons la Une, on ne l'utilisait pas parce que c'était pas un mot acceptable. Voilà, donc ça montre bien comment des médias engagés peuvent faire progresser en fait l'ensemble du journalisme.
Donc de ce que je retiens un peu de cette prise de parole, c'est il faut à la fois faire de l'entrisme, et ça, tu es une spécialiste en la matière, Nora, je crois que tu vas nous expliquer un peu.
Alors pardon, j'ai toujours eu tendance à dire que si vous voulez de tourner un avion, en fait, faut être dedans, et en général, vaut mieux être le pilote. Et à la faveur de ça, oui, il faut des safe spaces. Il faut des espaces où, en fait, on est en capacité de porter nos récits. Moi, sur les questions de quartier populaire, j'en suis issue. On a monté, il y a 22 ans, en fait, un magazine qui s'appelle Fumigène, qui est vraiment sur les questions urbaines, qui était à la base plutôt axé cultures urbaines. 2015, on se dit, à la faveur des attentats de Charlie et de l'hypercacher, cette glissade entre le sauvageon, qui était déjà devenu la racaille, qui était en train de devenir le terroriste. Il faut qu'on se crée des espaces à nous pour porter nos histoires et pour du coup porter un contre-récit, un contre-narratif. Et là, ça devient vital parce qu'on parle des nôtres et de fait, la stigmatisation et la délégitimation est telle que là, on était dans un moment qui était démocratiquement hyper grave. C'est-à-dire que le moment sécessionniste en mode « regardez-les en fait », ces Arabes qui sont en train de virer musulmans terroristes qui vont faire le djihad en Syrie et qui reviennent pour frapper les leurs, il y avait quelque chose de l'ordre de « il va falloir qu'on remette la question sociale au centre, il va falloir qu'on raconte en fait quelle est la réalité de ces quartiers et comment en fait finalement, puisque la loi aujourd'hui s'appelle loi séparatisme, c'est pas là que se passe le séparatisme. Le séparatisme, c'est celui de la République. C'est des espaces qui ont été abandonnés de la République. Moi, j'étais pas plus tard qu'avant-hier. Voilà, je suis entre Marseille et Paris. Vous avez des quartiers aujourd'hui qui sont dans un tel niveau d'auto-organisation qu'ils sont dans les caves de la République. Voilà, quand on estime que, après tout, c'est Marseille bébé que d'avoir une nana de 24 ans étudiante qui se fait fracasser la tête par une Kalachnikov chez elle à son domicile à 23 heures, c'est ce que j'ai entendu dans une rédac. Je vous dirai pas laquelle, la semaine dernière. Voilà. Ouais, c'est Marseille bébé. Ok, d'accord, voilà. Donc la nécessité de porter en fait ces récits-là est absolument centrale, et pour ça, il faut des safe spaces. C'est absolument vraiment nécessaire. À tel point que du coup, c'est le moment où en fait, t'as pas à venir te justifier de porter ce récit-là, t'as pas à venir à être dans une forme de neutralité ou d'objectivité qui n'existe pas. En fait, à un moment, c'est nos histoires, c'est ça, et en fait que voilà, on est là pour parler de nos histoires. Ces espaces-là, faut les créer. En revanche, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut pas se permettre juste d'attendre par externalité que nos espaces minoritaires deviennent majoritaires. Parce que, spoil, ça n'arrivera pas. Enfin, moi, je n'ai pas la fortune de Bolloré, J'ai pas Patrick Drahi, comme nous toutes, je pense, ici. Donc la question, c'est comment on arrive en fait à infuser et à peser dans un rapport de force par externalité. Et aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Les réseaux sociaux ont été un moment qui a permis de... Enfin, sont un outil et un levier qui permet de décupler ces paroles-là. Ce qui fait que moi, j'ai vécu Ziad Ebouna en 2005 les révoltes urbaines qui ont suivi. Entre le traitement, et je vous invite à aller voir le site de l'INA, parce que c'est toujours une mine de se replonger dans les débats de l'époque, et ce qui s'est passé en juin dernier après la mort de Naël à Nanterre, certes, c'est pas encore la panacée ce qui s'est passé après Nanterre, mais ça n'a rien à voir.
Sur le traitement médiatique.
Sur le traitement médiatique. Ce qui fait qu'on voit bien que par externalité, la question des violences policières, qui par ailleurs aussi, je vais faire une micro-digression, mais 2014, la loi travail sous Valls, les gilets jaunes, la répression extrêmement forte et la manière dont on a dû poser la question des violences policières, parce qu'en fait, elles sont sorties des quartiers et qu'elles ont frappé en fait, la population dite générale, pardon pour ce qualificatif, mais en vrai, c'est comme ça que ça se passe, a fini en fait, par poser voilà, cette question. Donc, voilà, il y a quelque chose qui a avancé là-dedans, et c'est ça l'enjeu. On ne peut pas déserter le terrain des médias mainstream. J'entends ce que tu dis sur le nombre de rédactrices en chef. Sur
j'ai pas
le
dit ça non
de...
plus. Hein.
Non, je sais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, quand tu parlais des chiffres, en vrai, moi, à Radio France, du coup, moi, j'ai une émission sur France Culture. On est aujourd'hui quasi plus de productrices que de producteurs. Ce qui, du coup, mais ça, c'est un autre débat, aussi engendre une forme de précarisation parce que, du coup, on peut moins les payer et ça, c'est quand même génial. La nana, elle bosse quand même pour moins cher. Parce que ça, c'est quand même un sujet. Et il y a beaucoup plus, et c'est pas toi que je vais le dire, voilà, de précarité liée à ces statuts. Quoi qu'il en soit, ces espaces, en fait, ils doivent aussi être investis pour porter ces récits au plus proche des espaces du pouvoir. À un moment, pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'étais en tournage à Munich pour un doc pour Arte. Et j'ai quand même mon chef-op qui me dit « Non, mais là, je vais faire le créneau ». Mais non, mais c'est parce que ça arrive encore, en fait. Enfin, tu vois, dans le même genre, les guili-guili, les machins, genre, ouais, mais c'est pas pour toi, allô. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça arrive tout le temps. Alors, je suis pas en train de dire qu'effectivement, il faut pas lâcher cet espace-là. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le moment où, du coup, ça peut permettre de faire avancer les sujets. Les termes de féminicide, moi, je me souviens, en 2005, j'avais eu un père qui avait vu ses deux filles tuées au Mexique et le terme de féminicide existait déjà. Et à l'époque, il me disait « Mais je comprends pas, ça n'existe pas. » Mais en fait, on est très, très loin, nous, de ces questions. C'est comme la question sociale. Elle commence à émerger dans le débat public sur les inégalités. Et en fait, on ne peut pas faire l'économie d'aller, malheureusement... Alors, c'est peut-être la militance qui veut ça. Il y a des safe spaces, mais en fait, il faut un moment qu'on descende dans la rue et qu'on aille à la castagne. Et ça ne peut pas se faire autrement que d'être face à des gens en conférence de rédaction et de dire « Ça, ce que tu dis, en fait, ce n'est pas possible. » Donc, effectivement, c'est douloureux. Effectivement, c'est bien qu'on ait nos espaces de repli en se disant « Oh là là, ça fait du mal et c'est pas tous les jours facile. » Je peux vous dire que moi, le débat sur l'abaya en début d'année, c'était hard. Voilà, et tout ce genre de débat bien putride, voilà. Mais à un moment, bah, quand moi, je suis invitée chez BFM et que je me prends en frontal 3 personnes et que vous portez une parole qui est pas beaucoup entendue, bah derrière, ça fait du bien à plein de gens qui ont besoin d'entendre ça et c'est nécessaire parce que du coup, ça rééquilibre. On est loin du compte, mais c'est absolument indispensable parce que c'est une manière aussi de porter des positions, de faire exister des histoires qui n'existent nulle part et de renverser un petit peu le rapport de domination. On en est loin, mais c'est le début.
Et le récit.
Tout passe par ça.
Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est ces techniques d'entrisme, tu les as à l'œuvre. Je voulais revenir sur ton expérience à toi, Faustine, parce que vous avez finalement fait un peu des deux. Vous avez genre créé d'abord votre safe place, en quelque sorte, et vous avez intégré un groupe et un média beaucoup plus général, en fait. Qu'est-ce que ça a impliqué, à la fois en termes de regard éditorial, de positionnement, mais aussi, on va parler de la thune, parce que c'est une réalité. Tu en parlais, Nora, et c'est très vrai. Je veux dire, on a aujourd'hui des milliardaires qui lâchent, mais alors des millions pour des médias qui sont rachetés. On parle du JDD, mais il y en a bien d'autres, qui ont un monopole sur la maîtrise du récit, en réalité, dominant, qui est rance, qui est raciste, qui est sexiste, qui est LGBTQIA+ophobe. enfin, on en passe et Validis par ailleurs, et on en passe d'autres. Comment ce switch vous a permis à vous d'occuper cet espace un peu plus général et de sortir de votre safe place en apportant ce nouveau regard et ces nouveaux sujets?
En fait, ça se fait à peine maintenant, à vrai dire, parce qu'on est arrivé aux Inrock, ça a commencé par un gros clash. C'est un sujet qui...
Ça, c'est 2016, on est d'accord?
Ouais, et c'est la couve Bertrand Cantat.
voilà. Il faut dire que ça commence fort.
Voilà.
Vous vous êtes senti accueilli, quoi.
Voilà.
Ah ouais, c'est dingue.
Donc là, on n'a eu absolument aucune voix au chapitre. Moi, personnellement, je revenais de congé maternité. Je n'ai même pas assisté aux réunions éditoriales, enfin aux confs de rédac qui ont... Parce qu'il y a eu des débats en interne, hein, il faut quand même le dire. La moitié de la rédaction n'était quand même pas d'accord. Hein. En tout cas, je n'ai pas assisté à ces réunions-là, mais mes collègues me les ont rapportées. En tout cas, toujours est-il que nous, ils avaient déjà fait une couve précédente sur Bertrand Cantat et nous, on les avait dézingués sur Chic. Et là, on vient de signer avec les Inrock, ils recommencent, ils remettent le couvert et donc on leur dit, nous, on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on s'exprime sur la question. Voilà. Et pour nous, on s'est dit, mais c'est normal, ils achètent un titre féministe, bien sûr qu'ils vont nous laisser prendre la parole là-dessus. Surtout qu'à l'époque, on était vraiment indépendante des Inrock. Hein, on avait notre site à nous, il n'y avait vraiment aucune interaction éditoriale. Et en fait, ça a coincé immédiatement en interne.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du coup, on est monté au créneau. En fait, contre toute attente, c'est finalement l'actionnaire des Inrock qui a fini par trancher et par nous laisser nous exprimer, voilà, qui nous a donné sa bénédiction. Donc, on a écrit cet édito. C'est Myriam Levin, d'ailleurs, à l'époque, qui l'a signé, je crois, ou je ne sais plus si c'était signé de nos trois noms. En tout cas, ça a créé des conflits internes en fait avec la moitié de la rédaction qui était pour cette couve. Donc, hostilité en interne, ça a été très compliqué. Et du coup, pendant des années en fait, ça a été vraiment compliqué de faire valoir notre voix, notre ligne éditoriale, etc. Et on a vraiment travaillé dans notre coin pendant des années. Et en fait, c'est assez récemment, c'est depuis qu'on a été englobé dans les Inrock, qu'on est devenu maintenant, on est physiquement sur le site des Inrock comme ce qu'on appelle une verticale féministe. Et depuis ce temps-là, maintenant, on a aussi, on intervient donc dans les confs de rédaction et on a aussi des sujets dans le print. Voilà, donc c'est très récent, finalement, c'est depuis 2 ans ça. Donc depuis 2 ans, on arrive à porter vraiment nos sujets dans les Inrock. Mais quand même, il faut savoir que aux Inrock, voilà, je le précise quand même, il y avait déjà des voix féministes avant nous, hein, des personnes qui étaient là dans la rédaction, qui sont beaucoup parties pour la plupart, mais voilà, on n'était pas le seul contre-pouvoir féministe. Donc voilà, notre entrisme est quand même, voilà, pas non plus.
Mais moi, il y a un truc qui m'interroge dans ce que tu dis. Pourquoi, à ton avis, l'actionnaire en fait est venu racheter un titre comme le vôtre? À quel moment ça veut dire que du coup le féminisme est devenu bankable? Enfin, on a vu certains titres féminins devenir féministes, enfin devenir se targuer de faire, enfin fait du fond du féminisme washing plutôt. Est-ce que tu penses que c'était ça l'objet derrière?
Alors honnêtement, je pense pas. Et en fait, quand tu me demandes pourquoi il a racheté un titre féministe aujourd'hui, je ne peux répondre que je ne sais pas. Parce que, en fait, malheureusement, il n'y a pas eu derrière d'investissement, qu'il soit financier ou même humain, vraiment très conséquent sur notre titre. Ça n'a été que. On avait une équipe de pigistes, on ne l'a plus aujourd'hui. Myriam, qui est une des trois cofondatrices, est partie, elle n'a pas été remplacée. C'est difficile d'avoir des budgets. Voilà. Donc, il y a eu, en fait, en interne, finalement, aucun relais de cette volonté. Donc, je ne sais pas.
Eh bien, on va lui demander.
Il était très enthousiaste. Écoute. Et autre chose, c'était en 2016 qu'on a signé le contrat, donc c'était avant MeToo.
Ouais,
et donc, MeToo, je dois dire qu'il a, il a eu quand même le nez creux, bon, même si aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Mais en tout cas, de se positionner comme ça sur ce thème de société très fort, c'était assez visionnaire, mais je ne sais pas pourquoi.
Intéressant.
Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, pas pour se faire de la maille, c'est sûr.
Non, c'est sûr.
Vous avez pas féminisé l'audience des Arocs, qui est quand même un magazine très masculin. Est-ce que votre arrivée n'a pas diversifié l'audience du site?
Non, parce que encore aujourd'hui, on garde nos propres canaux, type notre newsletter, il y a très peu d'interférences finalement avec le lectorat des Arocs. En dehors,
si ce n'est les articles que vous
Mais les Arocs sont mensuels maintenant, donc ça va être un article par mois au mieux. C'est pas un truc qui est très systématisé non plus. Donc non, je crois pas. Et en plus, leur communauté sur les réseaux sociaux, etc., sont, leurs chiffres sont vraiment écrasants par rapport aux nôtres. Nous, on a vraiment aucune force de frappe par rapport à eux. Donc
pas d'effet communicant, des vases communicants, pardon.
Pas tellement, ouais. pas tellement en vrai, pas
d'accord,
tellement.
Intéressant.
Donc ouais, c'est assez énigmatique.
Ah, mais c'est une bonne question. Va falloir qu'on creuse un peu tout ça quand même.
Mais oui.
Voilà, une prochaine enquête, Ariane, si tu veux, sur laquelle tu pourrais te pencher. Pour en revenir un peu, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire, de faire un constat en fait, de dire, on essaie de pousser des sujets féministes, on essaie de pousser des sujets antiracistes, etc., au sein des rédactions. Comme si c'était un désert, en fait, sur ces sujets-là. Lucie, comment on peut expliquer ce désert, en fait, féministe ? Toi qui connais très bien, je précise que tu as écrit un excellent ouvrage sur l'histoire de la presse féminine qui s'appelle « Un corset de papier », qui est publié aux éditions Divergence, et qui parle notamment de cette question. Est-ce que tu peux nous résumer ces plus de 200 pages en quelques mots, s'il te plaît ?
Hyper facile. En fait, l'héritage aujourd'hui qu'on... En fait, moi, je pense que c'est un héritage. Là, ce que vous décrivez comme la difficulté de porter des sujets féministes, pour le coup, et des sujets de lutte, en fait, sociale dans la presse pensée comme féminine, ou en tout cas envisagée pour un public dit féminin. C'est vraiment un héritage historique. Il faut quand même avoir en tête que la presse, c'est un média qui a été extrêmement légiféré. Il y a eu plus de 40 lois sur la presse sur l'ensemble du 19e siècle. Parce que tout de suite, évidemment, les différentes monarchies qui se sont succédées au 19e ont très bien compris à quel point c'était un contre-pouvoir. Et donc, il a tout de suite fallu quand même réglementer ce qui pouvait être dit ou non sur le pouvoir en question. Donc ça, c'est valable pour la presse généraliste, donc vraiment la presse d'information pour lesquelles, là, en l'occurrence, vous semblez toutes plus ou moins travailler et ou avoir quitté. La presse féminine, elle est considérée dès le départ comme de la presse spécialisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise aux mêmes lois. Elle n'est pas soumise à une loi qui est une loi de censure indirecte et économique qui s'appelle le cautionnement. Ça fonctionne exactement comme nos cautions d'appartement quand on est locataire. C'est-à-dire qu'il faut verser une somme au préalable quand on veut monter un journal et qu'il y a une somme qui correspond aux amendes préventives. On estime que vous allez nécessairement enfreindre la dignité du roi quand vous allez écrire bientôt. Donc, on veut s'assurer que vous ayez de quoi payer les amendes qui vont vous tomber dessus. Bon. C'est hyper
la
efficace.
Thune, Ariane, un peu. J'espère que t'as un peu de thune de côté.
Alors ça, c'est tombé.
C'est
hein.
Totalement ça. C'est un continuum historique génial, c'est quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais.
Alors ça, légalement, c'est tombé au moment des lois sur la presse en 1881. Mais la presse féminine, elle a jamais été soumise à ça. Parce que presse considérée comme spécialisée, comme la presse de mode, comme la presse pour enfants, voilà. Donc on pourrait se dire, youpitralala, la presse féminine, elle peut faire absolument ce qu'elle veut puisqu'elle n'a pas de caution, elle n'a pas d'amende à payer au préalable. Or, en fait, pas du tout, puisque c'est une presse spécialisée. Dans la presse spécialisée du 19e, on ne peut pas du tout aborder la question politique. Et celles qui s'y sont essayées, en fait, ont été poursuivies en justice. Voilà, et ont été condamnées à des peines de prison ou à des amendes considérables dès lors qu'on s'apercevait que c'était des femmes qui évoquaient la matière et l'actualité politique et qui étaient par exemple, qui faisait des commentaires sur les politiques monarchistes.
Au bûcher, Popol.
Ah bah là, carrément, en prison, hein, c'est fini. Hein. Au bûcher, peut-être. Et donc, évidemment que L'absence de possibilité légale de traiter, en tout cas de commenter l'actualité politique dans la presse féminine, elle crée une habitude éditoriale, une histoire éditoriale dont on est, je pense, encore héritière aujourd'hui. Ce que tu disais tout à l'heure, Ariane, sur la presse généraliste qui est quand même hyper trustée par des hommes, ça aussi, en fait, c'est une, je pense qu'on en est encore complètement héritière vis-à-vis du 19e, puisque dans la presse généraliste, il n'y a pas, en 19e siècle, hein, et ce, vraiment jusque très tard, jusqu'à à peu près La Fronde, qui est un quotidien national qui est fondé en 1897, par Marguerite Durand. En fait, il y a très peu de femmes qui écrivent dans la presse généraliste au 19e. Il faut imaginer un A3 dans Vertical, le journal généraliste, vraiment le national, quoi, le quotidien, ou même le journal, il est divisé en deux, et tout ce qui est considéré comme la matière sérieuse, donc là où on parle de la bourse, de l'histoire économique, de l'histoire nationale, où vraiment on parle de géopolitique, c'est le haut du journal, donc, et ce ne sont que des hommes qui y écrivent. Vraiment, c'est extrêmement difficile pour les femmes d'y avoir accès. Dans l'histoire des médias, il y en a vraiment très peu. Sur le 19e, elles sont trois, et c'est il faut être George Sand, quoi, pour y arriver, et encore elle le fait une ou deux fois, enfin c'est vraiment exceptionnel, quoi. Les femmes dans la presse généraliste, elles écrivent en bas, donc vraiment dans le feuilleton, qu'on appelle le feuilleton, et c'est plutôt des chroniques, et où enfin c'est des chroniques mondaines, du savoir-vivre, éventuellement un peu d'actualité culturelle. Et là, on voit bien en fait comment si vous prenez n'importe quel hebdomadaire féminin aujourd'hui, ces sujets-là, effectivement, c'est ce qu'on retrouve. En revanche, la bourse, pas trop. Et je crois que vraiment, c'est un héritage historique, c'est un héritage culturel.
Nous, ça faisait vraiment partie, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais des raisons pour lesquelles aussi on a lancé Chic, c'était vraiment, on voulait décantonner, je ne sais pas si ça se dit, les femmes de ces sujets mode. On ne voulait pas parler de mode, de beauté, etc. Et on voulait investir les sujets qui ne l'étaient pas dans les magazines féminins traditionnels.
Mais alors après, ça me fait penser au moment où en fait l'Express a explosé. Il y a eu une période où du coup, sous l'impulsion d'une rédactrice en chef, on a mis des femmes dans un service politique. Et c'est ça qui est encore le plus dingue, c'est que fut une époque, ces femmes étaient censées aller chercher du scoop, de l'information politique, mais sous couvert en fait de relations parfois presque intimes. Enfin, c'était Madame Claude version journalisme, c'est-à-dire que, enfin, fait sérieux, on parle des années 70. Donc, et c'est ça qui est fou, c'est que il a quand même fallu, enfin, j'ose espérer qu'on en est sorti, je crois, enfin, peut-être pas complètement, mais voilà, c'est-à-dire que ce moment où en fait il y a eu une bascule dans les choses dites sérieuses, on a utilisé les femmes pour finalement devenir des appâts. Vis-à-vis des hommes de pouvoir. Enfin, il y a eu quand même, ça a été pensé, ça aussi.
Je pense que c'est encore le cas. Hein. On va pas se mentir. En politique, en tout cas, c'est clairement encore le cas. Lorsque j'ai écrit mon ouvrage sur les femmes en politique, j'ai eu des témoignages vraiment dans ce sens, genre on va t'emmener au négo avec le PS parce que t'es mignonne, donc du coup ils vont être plus sympas, enfin des choses comme ça. Je crois que ça existe encore, ouais, malheureusement.
Mais c'est vraiment à double tranchant, parce que si on prend, en fait il a quand même fallu qu'il y ait des journalistes, des femmes journalistes au 19e pour écrire collectivement dans des rédactions uniquement féminines, hein, quasiment. Alors effectivement, c'était forcément des hommes à la tête, et là pour le coup a priori les chiffres pas tant bougé que ça, mais il a quand même fallu que ces femmes, elles réussissent à écrire ensemble pour en arriver ensuite à revendiquer de la professionnalisation journalistique. Et ça, c'est vraiment la toute fin du 19e, hein. C'est la Fronde, vraiment. Et là, ce que tu disais, on envoie les femmes pour, quand on commence à envoyer des femmes sur des sujets d'actualité, par exemple l'affaire Dreyfus, en fait c'est là où par exemple la Fronde s'est vraiment lancée. Il fallait voir l'accueil qu'on faisait de Séverine, qui était quand même pourtant une très grande journaliste, et on considérait qu'elle était, que son écriture journalistique était nécessairement mièvre et larmoyante, et que en plus elle avait l'audace d'assister au procès avec le public, qui était du coup et qui recueillait les réactions à chaud du public, etc. Et c'était vraiment considéré comme une petite presse et comme une petite manière d'envisager l'information.
Je voudrais dire quand même qu'il y a une journaliste qui a réussi à percer ce milieu très masculin au début du XXe siècle, qui s'appelle Andrée Violis, qui est la pionnière du journalisme d'investigation, qui a été complètement oubliée. Mais à l'époque, ses articles faisaient la une. On les annonçait la veille à la une du Petit Parisien, qui tirait à 1,5 million d'exemplaires. Et c'était, elle était à la même époque qu'Albert Londres. Elle a parcouru la Russie, elle a dénoncé la torture dans les camps des colonies en Indochine. C'est un monument du journalisme qu'on a totalement oublié, qui a été effacé de l'histoire, en fait, tout simplement. Elle est devenue connue en plus, elle est à 50 ans, elle avait 4 filles. Enfin, c'est une carrière absolument incroyable qui peut nous inspirer aussi aujourd'hui. Donc, je pense que dans l'histoire, il faut aussi prendre des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut et pas se dire effectivement c'était un milieu très masculin à l'époque quand Andrée Violis
alors Rosie n'a pas l'air d'accord.
Quand Andrée Violis était journaliste, il y avait 3 femmes journalistes au Petit Parisien, ça a été possible aussi parce qu'il y avait des hommes, quelques hommes féministes à l'époque, et elle était respectée intégralement comme reporter, honorée comme telle. Et donc, si ça a été possible en 1935, jusque dans les années 50, bah, ça ne peut que se démultiplier aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie aussi de prendre des exemples qui nous tirent vers le haut dans l'histoire.
Justement, aujourd'hui, il y a un aspect, en préparant l'émission dont on avait parlé ensemble, c'est la question de la précarité. Tu l'as évoqué en quelques mots tout à l'heure, la précarité que subissent en fait les femmes dans les rédactions, et les femmes journalistes, les femmes pigistes, et les féministes aussi. Parce que la réalité, c'est quand tu débarques dans une rédac et tu te dis « Coucou, je suis féministe », c'est pas forcément très évident, j'imagine.
Faut pas le dire.
Non, faut pas le dire.
Vaut mieux éviter. Vaut mieux qu'il le découvre, en fait. Le dis surtout pas à ton entretien d'embauche. Ça vaut le fait de dire « Désolée, je suis enceinte, donc je vais partir 6 mois ». Non, c'est terrible. Enfin, vraiment. C'est vraiment la figure de la féminazie,
quoi.
Toi,
tu dois avoir des retours, peut-être.
Moi, j'ai commencé ma carrière à Europe 1, qui était connue pour être une rédaction assez viriliste. Et du coup, j'avais un blog à l'époque avec une autre journaliste sur « Dis donc, vraiment, je suis la cible !» Encore une fois, la DGSI est dans ce chien. Et on avait un blog sur l'actualité du féminisme. C'était pas un blog féministe, mais un blog qui parlait de l'actualité.
Ouais, mais c'est déjà trop.
Voilà. Mais c'était assez exotique, en fait. Et c'était pas mal vu, mais c'était vu comme cette personne, cette reporter qui était quand même assez jeune, qui avait pas d'expérience, elle a un petit truc en plus. Et donc, du coup, c'était pas forcément négatif, mais ça me mettait quand même dans une case dont il était un peu difficile de sortir. Ça m'a permis d'exister dans une rédaction où j'aurais pu être noyée un peu comme une petite nouvelle parmi d'autres. Donc, ça peut être aussi une carte. En tout cas, à l'époque, c'était pas si courant. Donc, ça a pu jouer aussi.
Après, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Ça dépend aussi de quelle filière du féminisme tu te...
Oui, je pense. Ouais.
Voilà.
Tu te revendiques.
Parce que, voilà, si tu te revendiques, en fait... je vais mettre les pieds dans le plat d'un féminisme blanc, bourgeois, en fait. Ou l'abaya, c'est pas possible. Ou le foulard est un signe de... Bon, globalement...
Ça passe.
C'est plutôt valorisé.
Non, Elisabeth Badinter, quoi.
J'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit.
Ah, je l'assume. Mais je pense qu'elle est au courant. Hein,
Je pense aussi qu'elle est au courant et qu'elle l'assume complètement. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que...
Non, pas qu'on te compare à Elisabeth Badinter.
Non, pas du tout.
Loin de là.
Pas du tout. Non, mais c'est qu'il y a des féminismes qui, pour le coup, sont audibles, acceptables, qui sont même valorisés. En revanche, si vous posez la possibilité pour des jeunes femmes d'assumer les crop tops, d'aller à l'école en abaya, de dire que le voile, enfin que la loi de 2004 sur le voile pose problème, que, enfin, alors là, vous êtes woke, islamo-gauchiste, et ça devient extrêmement difficile. Donc en fait, c'est là-dessus, c'est comme sur la question antiraciste. Personne vous dira qu'il est raciste. Personne vous dira qu'il est contre le féminisme. Après, c'est où est la frontière entre ce qui est acceptable ou pas. Et là-dessus, donc, je pense qu'effectivement, un blog au sein d'Europe 1 sur l'actualité du féminisme...
Non, c'était... Pardon. C'était pas sur le site d'Europe 1, c'était sur WordPress. Ah oui, non, quand même. Non, mais c'était, voilà, j'avais un petit plus pour rentrer dans la rédaction. Mais non.
Parce que moi, je sais que, par exemple, je vais reprendre l'exemple des quartiers populaires. Poser ça... Au début de ma carrière, au moment où j'étais précaire, pas du tout en CDI, pas du tout en place, etc.
Maintenant que tu roules sur l'or.
Maintenant que... bah, non, mais en fait, il a fallu... Et c'est pour le coup différent, par exemple, d'autres types d'engagement. Aujourd'hui, si vous vous dites journaliste engagé sur les questions écologiques, par exemple, c'est assez ouvert. Quand moi, je suis arrivée dans le système, donc on est 2004-2005, se dire hyper engagé sur les questions sociales, notamment sur les questions de quartier populaire, d'antiracisme, etc., de discrédit, c'était pas du tout compris. Donc, je pense que c'était aussi du même ordre. Enfin, il y a féminisme et féminisme, en fait, tout comme il y a antiracisme et antiracisme. Donc là, c'est dans le champ et dans la cartographie de cet espace, où est-ce que vous vous situez ? Parce qu'à l'heure où, pardon, hein, elle... Le magazine Elle se dit féministe. Bah en fait on peut enfin et où je vois Gucci là du flouze, de la moula, du fric, du Gucci soutenez Popol Media. Quand Gucci ou Chanel fait des t-shirts genre girl power, bon bah faut savoir où on se situe et c'est bien ça en fait la problématique, c'est où est-ce qu'on se situe.
Bah c'est bien, ça me donne une petite transition pour un sujet écoute. Allez, une petite standing ovation. N'hésitez pas, hein, allez-y, applaudissez, ça fait toujours plaisir. Non, mais très juste. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur un sujet que je voulais aborder aussi, sur la question de l'indépendance. Parlons-en. Moi, j'ai le sentiment, pour évoluer dans ce milieu depuis maintenant un certain nombre d'années, et aussi cette expérience qui m'ont permise de faire des choix très clairs sur comment je veux que Popol soit financé, donné, hein, d'ailleurs, n'oubliez pas,
moula.
Important.
La moula.
Oui, beaucoup. Qui me pousse à refuser, non pas qu'on vienne frapper à ma porte tous les matins, hein, loin de là, mais très vite, j'ai affirmé que je ne voulais pas de sponsor. Je ne veux pas travailler avec des marques. Pour moi, c'est vraiment une ligne de no-go parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même une tendance de washing très forte. Tu parles de Gucci, tu parles d'autres marques qui vont peut-être soutenir des médias féministes en disant « bon bah voilà, là, on va dire qu'on fait un peu notre BA, on va filer un peu de thunes par-ci, un peu de... qui sont généralement assez risibles ». Je vois aussi émerger beaucoup dans l'environnement médiatique, notamment parisien, des studios de médias, de podcasts notamment, qui sont aussi des agences. Et moi, c'est des choses qui me questionnent, sincèrement, et je me dis comment on garde, et je pense que c'est peut-être pas impossible, hein. Moi, je pense que j'aurais du mal si je suis... payé par une marque et que la marque me dit non, ça tu peux pas le dire, de dire bah non, parce que du coup, bah voilà, compliqué. Comment, d'après vous, on peut garder une indépendance tout en étant notamment financé par les tenants du capitaliste en somme? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser sur plein d'autres types de.
Tu peux la poser sur tout. Ouais. Après, faut quand même poser un contexte. C'est que la crise de la presse, elle a jamais été aussi inquiétante. Enfin, on est face à une fragmentation énorme. Aujourd'hui, un canard, même comme Libé, qui est adossé à un groupe qui est celui de Drahi, il continue à perdre du fric. Les rédactions se sont réduites à portions congrues. Les reportages, aujourd'hui, se font dans des conditions absolument lunaires, voire se font plus du tout, parce que le journalisme, aujourd'hui, c'est du journalisme assis qui se fait en desk, c'est-à-dire qu'on est assis derrière notre bureau et au mieux, en fait, on peut avoir des gens au téléphone. Moi, je suis... Alors, c'est Radio France, c'est cool. C'est Bling Bling, c'est France Culture. J'ai une demi-heure sur France Culture. C'est globalement... J'ai un demi attaché de production. J'ai une réalisatrice 4 heures par semaine pour produire une demi-heure, en fait, en hebdo. Enfin, faut aussi avoir en tête que c'est compliqué de jeter la pierre à des gens qui disent « c'est aussi un espace que je me crée et s'il faut que je bosse pour ça avec telle fondation d'entreprise, hein, disons-le clairement, attachée à une banque qui fait de l'extractivisme à l'autre bout de la planète, c'est pas évident. »
Ouais, c'est ça. Mais surtout, c'est ça comment t'arrives à garder ta ligne et ta liberté éditoriale. Je dis pas de pas le faire, pas du tout. Moi, je me questionne sur comment on fait pour conserver sa ligne éditoriale.
Ce qui est quand même intéressant sur l'idée de la crise de la presse, c'est que dès la grosse industrialisation de la presse, donc dans les années 1830, très très rapidement, on a considéré que la presse était en crise.
Crise depuis 200 ans ?
C'est ça.
C'est génial.
Mais ça fait penser un peu à la stratégie du choc. Ouais. Et ce qui fait que toujours il y a eu cette question de la rentabilité qui est apparue. Et tout de suite,
finalement, c'est un levier d'acceptation pour tous. Ouais.
Bah, en fait, on en finit par se poser cette question-là, c'est-à-dire que on pourrait très bien décider aussi que l'information elle a pas besoin d'être rentable. Or, c'est pas le choix qui a été fait dès le départ. Et même la presse féminine, c'était un super lieu d'investissement pour les investisseurs qui étaient évidemment des hommes, hein, puisque au 19e, les femmes n'ont pas de fonds propres. Et c'était un lieu où on se disait ah oui, tiens, je pourrais placer quelques billets là, tant que Madame s'amuse. Mais vraiment, il y avait quand même véritablement de ça. Mais pour autant, on pourrait complètement penser que l'information est un service public et donc un bien commun et que ça n'a pas besoin de rapporter de l'argent comme l'hôpital, comme l'école. Or, dès lors qu'on a considéré que ça devait rapporter de l'argent aux actionnaires et ce, dès le départ, vraiment dès le départ, les abonnements n'ont jamais suffi à faire rentrer dans les frais les productions de presse, en fait, on a considéré la presse en crise.
Mais du coup, toi, Faustine, pardon.
Je rebondis juste rapidement. Oui. Le problème, c'est que même aujourd'hui, un canard comme le Figaro, Le Monde dans une certaine mesure, c'est peut-être leur danseuse, en fait, à ces industriels qui s'achètent ces canards. Ils ne sont pas rentables, de toute façon. Mais c'est surtout, en fait, la question de l'influence dans un système politique. C'est une manière de s'acheter de l'influence, finalement. La question, elle n'est pas de rapporter ou pas rapporter, c'est comment s'acheter de l'influence. Et du coup, dans ce cadre-là, traiter de la question de l'indépendance, c'est soit vous êtes Mediapart et vous avez la chance d'avoir... ou le canard enchaîné et vous avez une relation complètement directe avec vos lecteurs qui vous financent et vous êtes assis sur un tas d'or, entre guillemets, et vous avez le choix de cette... Enfin, et vous avez une liberté totale, et tant mieux. Mais tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Donc là-dedans, comment est-ce qu'on permet de faire exister des modèles ? Alors, j'ai pas de solution là-dessus. Mais effectivement, le fait qu'aujourd'hui, vous soyez aussi nombreux ce soir, qu'il y ait des communautés qui se créent sur ces safe spaces dont on a tous besoin, je me dis que quelque chose est en train d'émerger, qu'un chemin, en fait, on est en train d'emprunter ensemble un chemin. Où est-ce qu'on va arriver ? Je sais pas. Il y aura certainement de la casse.
J'aimerais bien que tu me le dises.
J'aimerais bien moi aussi, là. Je te jure. Et après, pour le coup, je termine là. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des civic médias. C'est des médias de proximité qui sont en partie financés par de l'action locale, par de la philanthropie, parce que par le biais de ces systèmes où passe par exemple l'éducation aux médias, il y a des liens qui se font avec des médias locaux, il y a de l'investigation très locale, et on est vraiment dans l'idée d'un contre-pouvoir. Et je pense qu'il faut qu'on aille tranquillement mais sûrement vers ces civiques médias. Voilà, comment est-ce qu'on arrive collectivement à se dire que l'information effectivement n'est pas juste un espace qui appartient à quelques-uns qui s'offrent de l'influence vis-à-vis du pouvoir politique, mais que c'est un commun au même titre que les débats qu'on a aujourd'hui sur l'eau, sur le vivant, et que c'est à ce titre-là, parce qu'on en fait une question centrale et démocratique, que du coup, on ira investir et que les philanthropes ou qui que ce soit, nous, collectivement, on ira remplacer cette redevance qu'on nous a retirée parce qu'il fallait enlever l'impôt des Français. On ira placer ça quelque part. Je me tais.
Non, mais très bien, tu as tout à fait raison et merci pour tout ça. Je voulais en profiter de donner la parole à Ariane aussi sur l'expérience de Disclose, parce que Disclose, c'est une ONG, en réalité, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Qui a été lancée par du financement participatif.
Oui, c'est un média à but non lucratif, donc qui est en accès libre, gratuitement, mais qui est financé uniquement par des dons et par des fondations. Donc des fondations philanthropiques, effectivement, qui financent des médias, principalement, ou des initiatives pour la liberté de la presse, pour l'investigation. Donc effectivement, c'est un modèle qui se développe de plus en plus, mais c'est basé aussi parce qu'il y a une forte communauté, il y a une interaction très forte avec les gens qui lisent des clauses, qui peuvent commenter, qui peuvent se saisir aussi des enquêtes qu'on va produire pour interpeller telle politique. Et puis surtout, on informe les lecteurs de qu'est-ce qui se passe après une enquête ? Quel est l'impact ? Chaque année, il y a un rapport d'impact sur, voilà, on vous a parlé de ce crime environnemental, on vous a parlé de cette vente d'armes, qu'est-ce que ça a déclenché ? Un changement de loi, une action devant les tribunaux, etc. Et donc, ça montre que l'information a un impact sur la société, peut aider à la changer et que c'est en fait une sorte de service public pour la société. Et donc, je pense que effectivement, j'aime bien ce que tu racontes sur les civic médias, l'idée de créer une communauté autour des médias, mais pas une communauté fermée, pas un nouvel entre-soi, mais l'idée d'un média qui est utile et qui doit rendre des comptes aux gens qu'elle sert, et donc qui doit entendre les critiques, s'améliorer pour améliorer la société dans laquelle on vit.
Super, ben merci beaucoup. Je suis désolée, je fais un peu, je suis la maîtresse du temps en l'occurrence.
Alors on a déjà un maître des horloges.
Un petit mot de la fin peut-être.
Un petit mot pour Popol.
Alors ouais, non, moi j'aurais un seul mot, c'est du flouze, de la moula, du fric pour Popol, parce qu'on a besoin. Le PEL qui vous servira pas à acheter un appartement parce qu'on est à 10 000 du mètre carré, cassez-le, donnez, voilà, ça, voilà, créons une communauté, buvons des coups.
Tout à fait, merci. Un petit mot, Ariane, pour conclure. Un petit mot de la fin.
Non, mais j'ai beaucoup parlé déjà avec des gens très agréables comme vous et d'autres moins agréables en garde à vue. Donc j'ai plus envie de voir des coups et de laisser la parole à mes consoeurs.
Non, ben moi, je vais faire un peu la lèche-botte, mais bravo Léa pour ce que tu fais. non, mais c'est assez fort et j'espère que tu vas pouvoir tenir cette ligne de l'indépendance parce que c'est pas évident. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais bon, nous on a une situation privilégiée où maintenant, en fait, on est en CDI, on est on est au sein d'un titre, et en fait. Personne nous fait chier avec cette question-là, j'ai envie de dire. Je sais pas, les annonceurs, on n'a aucune pression. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement privilégiée. On en profite tant qu'on peut parce que tous les jours, on se réveille, on fait les sujets qu'on a envie de faire, etc. Mais clairement, on n'avait pas pensé notre business comme ça il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, les deux premières années de Chic, on a vécu grâce à des marques de luxe, enfin, à une marque de luxe, en l'occurrence. Aujourd'hui, on est. On n'est pas pressurisé en tout cas pour ça. Si demain un annonceur vient auprès de notre groupe et demande d'annoncer chez nous, etc., bien sûr que la question va se poser. Aujourd'hui, on a ce luxe. Je crois que c'est très rare. Et félicitations pour ce que tu fais, mais je comprends aussi complètement nos consoeurs qui font autrement.
Tout à fait.
Voilà.
Moi, c'est un pari que je lance.
C'est un gros pari.
Je sais très bien que. C'est loin d'être évident et qu'effectivement, enfin, ça se tente quoi. On va voir.
Ouais. Et ben moi, écoute, ça se tente carrément. Je te souhaite qu'à Popol dans 200 ans, il y ait des chercheuses à ma place là et qui disent la naissance de Popol, ça a été le début d'une des vagues des révolutions féministes. Wow.
Je ne peux clairement rien dire après ça. Si ce n'est merci. Merci Nora, merci Ariane, merci Faustine, merci Lucie.
Merci beaucoup.
Merci.
Et la moula.
Et bravo Léa, bravo.
Thank you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.